Chapitre dernier qui termine l'histoire. Le jeune Nightingale avait été invité à passer cet après-midi chez son père, qu'il avait reçu plus tendrement qu'il ne s'y attendait. Il y avait trouvé son oncle, qui était revenu à Londres pour y chercher sa fille nouvellement mariée. Ce mariage était ce qui avait pu arriver de plus heureux au jeune Nightingale, car ses deux frères vivaient dans un état constant de querelle, relativement à leur manière d'élever leurs enfants, méprisant tous deux du fond du cœur la méthode que l'autre employait. Chacun d'eux s'efforçait donc de pallier de son mieux la faute que son enfant avait commise en aggravant celle de l'autre. Ce désir de triompher de son frère, joint à la foule d'arguments qu'Allworthy avait employés, produisit un effet si prompt sur le vieux Nightingale qu'il reçut son fils d'un visage riant et consentit à aller souper le soir même avec lui chez Mrs. Miller. Quant à l'autre, qui aimait réellement sa fille avec la passion la plus immodérée, on eut peu de peine à l'amener à une réconciliation. Il n'eut pas été plutôt informé par son neveu du lieu où sa fille et son mari étaient qu'il déclara vouloir se rendre sur le champ auprès d'eux. Et quand il y fut arrivé, il laissa à peine le temps à sa fille de tomber à ses genoux. Il la releva sur le champ et l'embrassa avec une tendresse qui émut tous ceux qui étaient présents. Enfin, en moins d'un quart d'heure, il fut aussi parfaitement réconcilié avec elle et son mari que s'il les eût lui-même mariés. Telle était la situation des affaires quand M. Allworthy et sa compagnie arrivèrent pour compléter le bonheur de Mrs. Miller, qui ne vit pas plutôt Sophie qu'elle devina tout ce qui s'était passé. Et telle était son amitié pour Jones que l'idée de son bonheur redoubla, s'il est possible, la joie qu'elle ressentait de celui de sa fille. Il n'y a pas, je crois, beaucoup d'exemples d'une réunion de gens aussi parfaitement heureux que ceux qui composaient cette société. C'était le père du jeune Nightingale dont le bonheur était le moins pur, car malgré son affection pour son fils, malgré l'autorité et les arguments d'Allworthy, réunis au motif dont nous avons parlé plus haut, il ne pouvait pas être complètement satisfait du choix de son fils. Peut-être la présence de Sophie tendait-elle un peu à aggraver et à augmenter sa douleur. La pensée que son fils aurait pu épouser cette jeune personne, ou telle autre qui lui ressemblât, se présentait à lui de temps en temps. Non qu'aucun des charmes qui ornaient la personne ou l'esprit de Sophie causât ses regrets. C'était le contenu des coffres de son père qui excitait les désirs ardents de son cœur. Tels étaient les charmes qu'il ne pouvait souffrir que son fils eût sacrifiés à la fille de Mrs. Miller. Les deux belles sœurs étaient toutes deux de fort jolies femmes, mais elles furent tellement éclipsées par la beauté de Sophie que, si elles n'avaient pas eu le meilleur caractère du monde, elles en auraient ressenti quelque envie. Car leur mari détournait rarement les yeux de dessus Sophie, qui était assise à table comme une reine qui reçoit des hommages, ou plutôt comme une divinité recevant les adorations de tout ce qui l'entoure. Mais c'était des adorations qu'on lui rendait librement et qu'elle était loin d'exiger, car elle était aussi distinguée par sa modestie et son affabilité que par toutes ses autres perfections. On passa cette soirée dans la joie la plus vraie. Tout le monde était heureux, mais surtout ceux qui avaient été les plus malheureux. Leurs anciennes craintes, leurs anciennes souffrances, ajoutaient tellement à leur félicité que l'amour lui-même et la fortune dans tout leur éclat n'eussent pu leur en procurer autant, s'ils eussent été privés de l'avantage d'une aussi délicieuse comparaison. Cependant, comme une grande joie, surtout après un changement soudain de situation est portée à être silencieuse, et habite plutôt dans le cœur qu'elle n'aime à s'exprimer par des paroles, Jones et Sophie paraissaient les moins gais de toute la compagnie. Weston en fit la remarque avec son impatience accoutumée, et s'écria souvent « Pourquoi ne dis-tu donc rien, mon garçon ? Pourquoi donc cet air si sérieux ? Et toi, fille, as-tu perdu ta langue ? Bois encore un verre de vin, il faut encore boire un verre de vin. » Et, pour l'égayer, il chanta à plusieurs reprises une chanson un peu gaillarde relative à son prochain mariage. Il aurait même poussé la chose au point de la faire sortir du parloir si M. Allworthy ne l'eût pas quelquefois arrêté par ses regards et une ou deux fois par un « Fille, M. Weston ». Cependant, il disputait et affirmait le droit qu'il croyait avoir de parler à sa fille comme il le trouvait bon. Mais, attendu que personne ne le secondait, il fut bientôt remis au pas. Malgré cette petite contrainte, il fut si charmé de la gaieté et de la bonne humeur de la compagnie qu'il insista pour la réunir le lendemain chez lui. Ils y allèrent tous, en effet, et l'aimable Sophie, qui avait été mariée le matin en particulier, officia comme maîtresse de cérémonie, ou, si l'on veut, fit les honneurs de la table. Elle avait en effet donné, le matin même, sa main à Jones dans la chapelle de Doctor's Commons, sans autre témoin que M. Allworthy, M. Weston et Mrs. Miller. Sophie avait instamment prié son père de n'instruire de son mariage aucune autre des personnes de la compagnie qui devait ce jour-là dîner chez lui. Le même secret avait été enjoint à Mrs. Miller, et Jones répondit à la discrétion de M. Allworthy, ce qui empêcha jusqu'à un certain point la délicatesse de Sophie de souffrir de la nombreuse réunion dans laquelle, bien contre son inclination, mais par obéissance à la volonté de son père, elle fut obligée de se trouver. Dans la confiance que son secret était bien gardé, elle passa la journée assez tranquillement. Mais M. Weston, qui en était déjà à la fin de la seconde bouteille, ne put contenir sa joie plus longtemps, et après s'être versé une rasade, but à la beauté de la nouvelle mariée. Tous ceux qui étaient présents la portèrent, à la grande confusion de notre pauvre Sophie, qui rougit extrêmement, et au grand chagrin qu'en ressentit Jones à cause d'elle. La vérité est que cette indiscrétion n'apprit rien à aucun de ceux qui étaient présents. Mrs. Miller, l'ayant dit tout bas à sa fille à son mari à sa sœur, et elle à tout le reste de la compagnie. Sophie saisit la première occasion de se retirer avec les dames, et M. Weston resta au milieu des bouteilles. Il y fut successivement laissé par toute la compagnie, excepté par l'oncle du jeune Nightingale, qui aimait à boire autant que Weston lui-même. Ils veillèrent donc courageusement une partie de la nuit, et longtemps après l'heure fortunée qui avait placé la charmante Sophie dans les bras amoureux de son cher Jones. Lecteur, nous avons enfin amené notre histoire à une conclusion qui, à notre grand plaisir, quoique peut-être contre toute attente, te montre Jones le plus heureux des hommes. Car est-il un bonheur dans le monde égal à celui que procure la possession d'une femme telle que Sophie? J'avoue sincèrement que je n'en ai pas encore découvert. Quant aux autres personnages, qui ont fait une figure plus ou moins considérable dans cette histoire, comme quelques-uns de nos lecteurs pourraient désirer d'en savoir un peu davantage sur leur compte, nous allons, en aussi peu de mots que possible, satisfaire leur curiosité. On n'a jamais pu faire consentir M. Allworthy à revoir Blifil, mais il a cédé aux importunités de Jones, appuyé par Sophie, et lui a fait une rente de 200 livres. Jones y a ajouté secrètement 100 livres. Il vit avec cela dans une ville du nord de l'Angleterre, à environ 200 milles de Londres, et économise annuellement 200 livres pour acheter une place au prochain Parlement, à la nomination d'un bourg voisin, où il est en concurrence avec un procureur du lieu. Il est aussi devenu depuis peu méthodiste, dans l'espérance d'épouser une très riche veuve de cette secte, dont le bien est situé dans cette partie du royaume. Square mourut bientôt après avoir écrit la lettre que nous avons rapportée. Et quant à Thwackum, il continue à être curé. Il a fait beaucoup d'efforts inutiles pour regagner la confiance de M. Allworthy et rentrer en grâce avec Jones. Il les flatte tous deux en face et il les déchire lorsqu'ils sont absents. Mais M. Allworthy a pris depuis peu chez lui M. Abraham Adams, dont Sophie est extrêmement satisfaite, et à qui elle confiera, dit-elle, l'éducation de ses enfants. Mrs. Fitzpatrick est séparée de son mari et a conservé les faibles débris de sa fortune. Elle est en bonne réputation dans un certain quartier brillant de la ville, et si bonne économe qu'elle dépense 3 fois son revenu sans faire de dette. Elle conserve la plus grande intimité avec la femme du père d'Irlande dont nous avons parlé et lui rend en acte d'amitié tous les services qu'elle reçoit de son mari. Mrs. Weston se réconcilia bientôt avec sa nièce Sophie et passa 2 mois avec elle à la campagne. Lady Bellaston fit à la dernière une visite de cérémonie lorsqu'elle revint à la ville, se conduisit avec Jones comme avec un homme qui lui était tout à fait inconnu, et lui souhaita très poliment beaucoup de bonheur dans son mariage. M. Nightingale a acheté une terre pour son fils dans le voisinage de Jones, où le jeune homme, sa femme, Mrs. Miller et sa petite-fille résident. La plus agréable union subsiste entre les deux familles. Quant au personnage secondaire, Mrs. Waters est retournée à la campagne avec une pension de 60 livres que lui fait M. Allworthy. Elle a épousé le curé Supple, à qui, sur les instances de Sophie, Weston a accordé un bénéfice considérable. Black George, ayant appris la découverte qui avait été faite, disparut. On n'en a pas entendu parler depuis. Et Jones donna l'argent à sa famille, mais non en proportion égale, car Molly en eut la plus grande part. Quant à Partridge, Jones lui a fait une rente de 50 livres. Il a encore établi une école qui lui a mieux réussi que les précédentes, et il est maintenant question d'un mariage entre lui et Miss Molly Seagrim, qui, par la médiation de Sophie, doit probablement se faire. Nous revenons prendre congé de M. Jones et de Sophie, qui, deux jours après leur mariage, accompagnèrent M. Weston et M. Allworthy à la campagne. Weston a résigné son château et la plus grande partie de sa terre à son gendre, et occupe maintenant une maison moins grande, dans un autre comté du pays, meilleur pour la chasse. Il va souvent voir M. Jones, qui, ainsi que sa fille, trouve un plaisir infini à faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'amuser. Leur désir, à cet égard, est suivi d'un tel succès que le vieux gentilhomme proteste n'avoir jamais été aussi heureux. Ils lui ont arrangé une salle et une antichambre où il s'enivre avec qui bon lui semble, et sa fille est toujours aussi prête qu'elle l'était à jouer tous les airs qu'il aime. Car Jones l'a assuré que son plus grand désir, après celui de lui plaire, est de contribuer au bonheur du vieillard, en sorte que les égards qu'elle a pour son père la rendent presque aussi chère à son mari que l'amour qu'elle a pour lui. Sophie a déjà deux beaux enfants, un garçon et une fille, dont le vieux gentilhomme est si fou qu'il passe la moitié de son temps dans la chambre de la nourrice et déclare que le babil de sa petite fille, qui a un peu plus d'un an et demi, est pour lui une musique plus douce que les cris les plus mélodieux de tous les chiens d'Angleterre. Allworthy s'est aussi montré extrêmement libéral envers Jones à l'occasion de son mariage et n'a rien oublié pour lui montrer son affection ainsi qu'à sa femme qu'il aime comme un père. Tout ce qui, dans le caractère de Jones, avait de la tendance au vice, a été corrigé par l'habitude de vivre avec cet excellent homme, et par son union avec la charmante et vertueuse Sophie. Il a aussi, en réfléchissant sur ses folies passées, acquis une discrétion et une prudence très rares dans un jeune homme d'un esprit aussi vif. Enfin, comme on ne pouvait trouver un homme et une femme plus estimables que ce couple passionné, on ne pourrait non plus en imaginer de plus heureux. Ils conservent l'affection la plus pure et la plus tendre l'un pour l'autre, affection augmentée chaque jour par leurs agréments mutuels et une estime réciproque. Leur conduite envers leurs parents et leurs amis n'est pas moins aimable que celle qu'ils ont l'un envers l'autre. Et telle est leur complaisance, leur bonté, leur bienfaisance envers leurs inférieurs, qu'il n'y a pas un voisin, un fermier, un domestique, qui ne bénisse avec la plus vive reconnaissance le jour où M. Jones fut marié à Sophie. Fin du roman.